clairement averti par l'Esprit de Dieu, a prévenu le roi d'Israël qu'il y avait des embuscades du roi de Syrie contre lui. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs, il a soupçonné de la trahison et il leur dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de vous est pour le roi d'Israël, en d'autres termes, qui est en train de me trahir ?» Mais l'un de ses serviteurs répondit « Mais personne au roi mon seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit « Allez et voyez où il est et je le ferai prendre. » On vint lui dire « Voici, il est à Dothan. » Le roi de Syrie donc envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu « Ah, mon Seigneur, que ferons-nous ? » Il répondit, Élisée répondit « Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée, c'est pas du tout de sa faute, elle a rien à voir là-dedans, la pauvre. Élisée pria et dit « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Très court comme prière. Hein ? Pourtant tellement inspiré. « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Voilà une prière que peut-être nous faisons peu, ou que ne faisons peut-être pas ou jamais, et qui pourtant va vraiment avoir son importance dans différents contextes. Ici, nous avons deux façons de voir, deux façons d'aborder une même situation. Il y a celle du serviteur et il y a celle d'Élisée. Il y en a un qui marche par la vue, par la visibilité, qui parle et qui réagit en fonction de ce que les circonstances lui disent. Et puis un autre, Élisée, qui lui marche par la foi, par l'esprit, et qui a une vision spirituelle de la situation. Le serviteur voit sur le plan humain et terrestre, et puis Élisée a une vision. Il y en a un qui marche par visibilité, en fonction des circonstances, et l'autre qui marche par vision. Il voit dans la vision, c'est pas un truc de farfelu, hein. Il voit dans l'invisible. Il voit ce qui n'est pas sous les yeux de chair, mais qui pourtant, dans le spirituel, est bel et bien réel. Et à ces deux façons de voir la même situation, il y a forcément deux attitudes qui sont là évidentes sous nos yeux. Il y en a un qui panique et qui dit « Ah Seigneur, comment on va faire ?» Et puis l'autre qui dit « Ben ne crains pas. » Il y en a un qui voit le problème, la taille du problème, et l'autre, Élisée, qui voit qu'en réalité, ils sont ceux qui sont pour lui, c'est-à-dire l'armée de l'Éternel, les forces spirituelles du royaume de Dieu, sont beaucoup plus nombreuses. Nous n'avons que deux façons de considérer les choses. Soit nous marchons par la vue, soit nous marchons par la foi. Soit nous marchons par la visibilité, soit nous marchons par vision. Soit nous avons un langage, des pensées, des raisonnements qui sont dictés par les circonstances, soit nous pensons et nous raisonnons et nous parlons par conséquent comme Dieu lui pense, raisonne et parle. C'est une prière que nous sommes amenés à faire les uns et les autres dans différents cas de figure, dans différents contextes. C'est une prière qui est, à mon sens, indispensable, qui est nécessaire pour moi comme pour les autres. Pourquoi est-ce que nous sommes appelés à régulièrement, dans différents contextes qu'on va voir, de dire « Seigneur, ouvre mes yeux ». Peut-être parfois on dit « ouvre mes yeux ». Là, il a dit « ouvre ses yeux ». Mais il y a des domaines dans lesquels je suis amené à dire « oui, Seigneur, ouvre ses yeux ». Puis à d'autres moments, peut-être honnêtement, c'est moi qui suis obligé de dire « Seigneur, ouvre mes yeux, il faudrait vraiment que cette situation, j'arrive à la voir comme toi tu la vois et que je la conçoive comme toi tu la conçois ». L'origine du problème, ce n'est pas compliqué, c'est notre, avant notre conversion, c'est la cécité spirituelle. Très rapidement, on sait que lorsque le serpent a tenté Ève et par voie de conséquence Adam, et qu'ils ont cédé à la tentation, il est dit que leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et à ce moment-là, si c'est vrai qu'ils ont, leurs yeux se sont ouverts sur certains aspects seulement, leurs yeux, par contre, sur des réalités spirituelles, se sont fermés. Et là, à ce moment-là, ils sont devenus, c'est ce que la Bible montre à différents endroits, c'est la condition de tout être sans Dieu, c'est sans Jésus, sans le Sauveur qu'est Jésus, ils sont devenus aveugles spirituels. Et nous sommes, selon ce que dit le prophète, nous sommes des aveugles spirituels, nous cherchons, nous tâtonnons, leurs yeux spirituels se sont fermés et sont entrés dans des ténèbres, alors que nos yeux, peut-être de chair, voient très bien, mais à l'intérieur, les yeux du cœur, la cécité spirituelle s'est emparée d'Adam et Ève, et par l'hérédité du péché, c'est devenu la condition de tout être humain. Avec la grâce de Dieu, avec la nouvelle naissance, notre conversion à Christ, la nouvelle naissance, avec la repentance, depuis que nous avons laissé cette lumière qu'est Jésus-Christ entrer dans notre cœur, il y a effectivement une vue, une vision spirituelle des choses qui commence à venir, qui commence à revenir, mais tout n'est pas fait, parce que comme le dit l'apôtre Paul, toutes choses sont en train de devenir nouvelles. La nouvelle naissance, eh bien, une nouvelle naissance, c'est une naissance spirituelle. Et nous sommes en train d'apprendre, nous sommes en train d'être reconstruits, d'être reformés dans notre cœur. Nous apprenons à marcher, nous apprenons à voir comme un nouveau-né. Lorsqu'un nouveau-né, la maman lui donne la vie, il commence à voir un petit peu des ombres, il voit des couleurs, de près il commence à reconnaître. Mais il y a des tas de choses au niveau de sa vue qui vont se mettre en place seulement au fur et à mesure du temps. Et si nous sommes, et c'est pas si, c'est sûr, nous sommes des nouveau-nés spirituels, il y a des choses effectivement que, par la grâce de Dieu, nous avons compris, au niveau de la personne de Jésus, de qui il est, de notre nécessité de nous repentir, du salut, du sauveur, de la foi, de l'Esprit Saint, du baptême de l'Esprit. Mais il y a aussi, évidemment, des domaines dans lesquels nous avons besoin d'avoir une meilleure acuité visuelle et de voir les choses, de voir le Seigneur comme lui, comme il veut qu'on le voit, de voir des situations telles que lui, il les voit, de voir des gens comme lui, il les voit, de nous voir nous-mêmes comme lui, il nous voit, de voir l'Église comme lui, il la voit, etc., etc. Et il y a des tas d'applications, évidemment. Le besoin, c'est premièrement, et c'est déjà le premier aspect pour lequel on peut prier, Seigneur, ouvre ses yeux quand on intercède pour ceux qui n'appartiennent pas encore au Seigneur. Puis si quelqu'un ce soir n'appartient pas à Jésus, il y a une priorité une prière qu'il faut faire absolument, c'est dire, Seigneur, révèle-toi à moi, ouvre mes yeux spirituels, afin que je voie, que je comprenne avec les yeux de mon cœur, que je comprenne, Seigneur, qui tu es. Ouvre mes yeux, ouvre ses yeux. Et il y a ce besoin premier, c'est d'abord que la vue spirituelle, commence à revenir, cette conviction qui seule vient de l'Esprit, Jean chapitre 16, Jésus dit bien, il est avantageux que je m'en aille, je vous enverrai l'Esprit, il vous enseignera toutes choses, mais c'est l'Esprit de Dieu qui convaincra de péché, de justice et de jugement. C'est l'Esprit de Dieu seul qui convainc. Ouvre ses yeux. Vous pouvez parler à vos enfants, vous pouvez parler à des membres de famille, vous pouvez parler à des amis, à des bien-aimés, sur différents sujets, différentes situations. Vous pouvez même parfois leur montrer, leur prouver, c'est sous leurs yeux. Vous leur montrez avec des arguments bien ficelés, des expériences vous-même, tout ce que vous avez vécu, et avec cœur et avec amour, et vous leur dites, et vous leur redites, et vous leur expliquez, et par A plus B, c'est ce que vous avez dit est indéniable, et en plus vous l'avez dit avec compassion, et en plus vous l'avez dit avec amour, mais en face de vous, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui convainc les cœurs. Il n'y a que lui. Nous, parents, nous, membres de famille, pour nos amis, peu importe, nous n'avons en vérité aucune... On a des arguments bien ficelés et ils sont pertinents, mais nous n'avons aucune force de conviction. Et il n'y a que par la prière. Ouvre ses yeux, Seigneur, afin qu'il voie. Ouvre ses yeux afin qu'elle voie. Il n'y a que par la prière que va venir cette conviction, cette action de l'Esprit dans les cœurs, parce qu'il faut absolument qu'il y ait cette base à ce moment-là. C'est une œuvre spirituelle. Nous avons accès aux gens par notre témoignage vécu, par notre témoignage parlé, mais nous n'avons pas accès à leur cœur. Le seul qui a accès à leur cœur, le seul qui peut amener une conviction, le seul qui peut amener la lumière dans un cœur enténébré, c'est le Saint-Esprit. Bien sûr, par nos paroles, par notre témoignage, par nos comportements, par notre amour, nous pouvons soit favoriser cette action, ou alors malheureusement la ralentir, la freiner. Parfois on a un bon témoignage, parfois on a un contre-témoignage, mais une chose est sûre, c'est que même si on a un bon témoignage, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui, par la parole et l'Esprit et la parole, va amener une conviction dans le cœur et va commencer à amener, j'ai bien dit commencer, on va voir un autre cas derrière, commencer à amener une vision spirituelle au sujet de Jésus-Christ, de la nécessité du salut, de la foi, etc., etc. Psaume 146, je ne l'ai pas mis ici, mais ça va avec Jean 16. Psaume 146, verset 8. L'Éternel qui ouvre les yeux des aveugles. Et ceci, pas seulement au sens littéral, mais aussi au sens figuré, au sens spirituel. Ce qui est même d'ailleurs le sens le plus important, parce qu'il n'y a rien de plus beau que quand nos yeux spirituels s'ouvrent sur Jésus-Christ et qu'on peut le recevoir, l'accepter, et que notre vie se met en marche avec lui et le salut. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus pertinent. Merci Seigneur. Par la grâce de Dieu, j'espère que tous ce soir ici, nous sommes entrés dans ce démarrage où nous avons, avec la nouvelle naissance, commencé à voir. Mais ce n'est pas parce que nous avons commencé à voir des choses spirituelles que forcément tout est calé et que tout est fini, tout est acté. Ce n'est pas parce que je me suis donné au Seigneur, ce n'est pas parce que j'ai pris le baptême, ce n'est pas parce que j'ouvre la Bible régulièrement, ce n'est pas parce que je me joins à des réunions de prière, ce n'est pas même parce que j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, tout ça est important, ce n'est pas parce que j'ai donné ma vie au Seigneur et que j'ai été baptisé que tout est fini et que tout est réglé. Et puis ça y est, là. Toutes choses, dit Paul, sont en train de devenir nouvelles. Et j'ai besoin, comme le serviteur d'Élisée, oui, il était serviteur et en servant Élisée, il servait Dieu, en étant serviteur, il avait besoin, face à une situation donnée, d'apprendre à voir, non pas par les circonstances, mais de voir avec les yeux de Dieu. J'aime aussi beaucoup cette... ce récit qui nous concerne, qui concerne les disciples. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, à un moment, le Seigneur rentre dans un village qui s'appelle Bethsaïda. Le Seigneur rentre dans un village qui s'appelle Bethsaïda. Les disciples, quand on considère le contexte plus large, ont encore bien du mal, même s'ils ont bien compris qui est Jésus, ils ont encore bien du mal à comprendre comment il fonctionne. Ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, ils ont souvent du mal à comprendre ce qu'il dit. Il y a encore souvent des zones de flou, des zones d'ombre, des zones d'incompréhension. Et le Seigneur va illustrer leur besoin d'une plus grande acuité visuelle, leur besoin d'être guéri, excusez-moi cette expression, d'être guéri d'une myopie spirituelle, justement par un miracle. Le Seigneur rentre dans ce village de Bethsaïda, Bethsaïda qui signifie maison de la pêche. Et en réalité, derrière ce miracle, vous relirez chez vous, hein, je vous ai mis la référence, derrière ce miracle, il y a un enseignement spirituel. Le Seigneur rentre dans le village, Il prend cet aveugle et il le sort, il le prend par la main et il l'emmène en dehors du village. Et puis, si vous avez déjà lu ça, c'est ce passage, honnêtement, somme toute assez bizarre, où le Seigneur va faire de la boue avec sa salive et il va lui mettre ça sur les yeux. Et le Seigneur lui dit, est-ce que tu vois quelque chose ? Et là, en réalité, cet aveugle ne voit pas du premier coup. Et il dit simplement, j'aperçois des hommes. Et encore, quand il dit homme, il dit anthropos. C'est-à-dire qu'il ne fait même pas la distinction entre des hommes et des femmes. Il voit juste des silhouettes, des formes. Mais c'est tellement vague, c'est tellement flou. Il n'est plus aveugle, mais en réalité, tout ce qu'il voit est flou. Et il dit, j'aperçois des hommes, anthropos, des silhouettes humaines, littéralement, mais qui sont comme des arbres. Et Jésus va avoir un second, va le toucher une deuxième fois pour qu'ensuite il voie clair et qu'il voie distinctement. Ça vous a jamais paru bizarre, ça, quand même ? Depuis quand Jésus est obligé de s'y prendre à deux fois pour guérir quelqu'un ? De quand Jésus est obligé de se prendre à deux reprises pour guérir quelqu'un ? Lui qui, de toute façon, s'il avait voulu, n'était même pas obligé de faire la boue. Il n'était même pas obligé de le toucher. On sait que par une seule parole, à un moment, le Seigneur voit deux lépreux qui viennent. « Maître, si tu veux, tu peux nous rendre purs. » « Je le veux, sois pur, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et puis, instantanément, ils sont purifiés. Pourquoi Jésus s'y reprend à deux fois ? Parce qu'ici, il y a un enseignement. Parce que ce qui manque aux disciples, c'est le regard spirituel. Les disciples, ça ne peut pas nous concerner, nous, ça les concerne que eux, bien sûr, ne sont plus aveugles. Ils sont sortis de ce monde de ténèbres. De la même façon que Jésus étant entré, étant venu dans ce village, maison de la pêche, là le Seigneur a lancé, et il est venu chercher des pêcheurs, il est venu chercher des perdus, il est venu sauver ceux qui étaient perdus, et il lance, pardonnez-moi cette expression, ses filets, ses cordages d'amour dans cette maison de la pêche. Le Seigneur lance ses filets d'amour et il attrape des hommes, il attrape cet aveugle spirituellement, cet homme est aveugle, c'est sa condition sans Dieu, il le prend par la main, comme nous, le jour de notre conversion, il nous prend par la main et il l'emmène à l'extérieur du village, c'est-à-dire dans l'image en dehors de ce monde. Il l'emmène en dehors de ce monde. Et là, le Seigneur commence à œuvrer dans sa vie, comme pour toi, comme pour moi, chacun d'entre nous. On a commencé un cheminement avec le Seigneur, on n'est plus esclave, on n'est plus dans ce monde, on est sorti de l'Égypte, on est sorti de ce monde, on n'est plus aveugle, on commence à voir, on parle avec Jésus, on commence à avoir un entretien avec lui, on a un contact avec lui. Mais quand le Seigneur nous dit, qu'est-ce que tu vois ? Est-ce que tu vois ? L'homme répond, j'aperçois. Et il faut se contact, il faut que ça aille plus loin. Quand il se laisse à nouveau toucher par le Seigneur, c'est là que Marc 8 précise, il vit tout distinctement, c'est-à-dire qu'il commence à avoir un regard spirituel, un regard précis, il commence à avoir une bonne vision des choses, littéralement, il voit clairement et à distance. Il voit clairement et à distance. C'est ce regard dont les disciples avaient désespérément besoin. C'est le sens de ce miracle où les disciples, le Seigneur leur montre par l'intermédiaire de ce miracle ce qu'il a fait déjà pour eux et ce dont ils ont encore besoin. Les disciples ont besoin d'avoir une meilleure acuité visuelle. Ils sont sauvés. Ils appartiennent à Jésus, ils ont contact avec lui, ils ont commencé à cheminer avec lui. Mais quand le Seigneur leur dit certaines choses et qu'il leur parle et qu'il leur dit « Est-ce que vous voyez ?» Quelques versets avant, il leur dit « Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ? Est-ce que vous comprenez ce que je vous ai fait ?» La réalité, c'est que les disciples ont bien du mal à voir où Jésus y veut en venir. Et finalement, non, on ne voit pas tant que ça, Seigneur. Et c'est ce regard de Dieu dont nous avons besoin, par lequel je vois le Seigneur, je discerne ce qu'il est, ce qu'il veut. Je commence à comprendre les gens, les temps, les circonstances, les situations. Je comprends ce par quoi je passe. Je comprends, alors que le serviteur d'Élisée ne le comprenait pas, je commence à comprendre le sens de mon adversité quand je suis entouré par ces chars ennemis, quand je suis entouré par la pression, quand il y a un étau, je commence à voir des réalités spirituelles derrière les circonstances humaines et visibles, et je commence à voir spirituellement des choses que je n'avais jamais perçues avant. Et c'est ce qui se passe, c'est ce dont les disciples avaient besoin, de voir non seulement le Seigneur, de voir les circonstances, de se voir soi-même, de voir les perdus, on pourrait faire tellement d'applications, comme le Seigneur, lui, les voit, d'avoir une bonne vision de Dieu, de moi, des temps, des circonstances, de l'adversité, etc. C'est ce regard qui manquait aux disciples, et c'est l'enseignement qu'il y a derrière Marc chapitre 8 ici, c'est que cet homme, Jésus leur dit, c'est comme s'il leur disait, mais il leur dit dans un langage imagé, par un acte, il leur dit: c'est vrai que vous êtes plus aveugle, mais vous manquez encore terriblement de vision. Vous ne voyez pas comme moi je vois. Et c'est ce que je veux faire, et je veux amener, je veux toucher encore vos yeux spirituels, je veux toucher les yeux de votre cœur et vous permettre de voir. C'est l'enseignement derrière ce miracle. C'est pour ça que Jésus n'a pas guéri cet homme du premier coup, à cause du sens, à cause de ce qu'il voulait leur communiquer. Nous ne sommes plus aveugles, mais peut-être encore un peu myope, ou peut-être beaucoup. Et puis, il y a cette nécessité aussi, quand nous sommes disciples, et là, ce texte, on va le lire, dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, même si on appartient au Seigneur, et quand nous sommes ses disciples, et là, il est question de deux disciples, besoin que le Seigneur ouvre encore nos yeux, même si nous sommes ses disciples. Et là, ils ont eu, ces deux disciples-là, Luc chapitre 24, ils ont eu une nouvelle révélation de Jésus. Luc chapitre 24, on va prendre à partir du verset 13, c'est affiché ici. On va lire les versets 13 à 24. C'est après la résurrection, verset 13, voici ce même jour de la résurrection. Deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'environ 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. C'est fort ça quand même. Jésus est à côté d'eux quand même. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Cléopas répondit: es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il. Oh, c'est pas que Jésus ne le sait pas ou qu'il fait l'hypocrite, hein, mais il veut les faire parler. Il faut qu'ils sortent ce qu'il y a dans leur cœur. Il faut qu'ils parlent dans leurs incompréhensions. Ils répondirent: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu, devant tout le peuple. Comment les principaux sacrificateurs, nos magistrats, l'ont livré pour le faire condamner à mort, et ils l'ont crucifié. Nous espérions que... Et là, on peut tous, à certains moments de nos vies, et maintes fois, commencer des phrases en disant: nous espérions que... Mais seulement, ça ne s'est absolument pas passé comme tu pensais. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes, désolé mes sœurs, aujourd'hui, Vous êtes toutes crédibles, mes sœurs, mais à l'époque, il faut savoir que le témoignage d'une femme ne vaut rien du tout. C'est Jésus qui a réhabilité et qui a ramené du crédit à ce que les femmes disent quand ils se révèlent volontairement à des femmes en premier et pas à des hommes. Et là, les disciples n'y croient pas parce que le témoignage d'une femme n'a pas de valeur. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus. Elles ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, ils l'ont trouvé, ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dites. Mais lui, Jésus, ils ne l'ont pas vu. C'est cocasse, non? Jésus est à côté d'eux. Et ils disent, ah ben non, ben Jésus, on ne l'a pas vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin ». Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Amen. Tous disciples qu'ils étaient, ils avaient encore bien du mal à reconnaître Jésus qui était près d'eux. Et ils ne le reconnaissaient pas, en vérité. Et j'ai insisté, j'aime beaucoup ce passage, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ce qui peut, ici dans le texte, c'est clair, bien aimé, on pourrait faire des tas d'applications concrètes, pratiques, mais ce qui nous empêche de reconnaître le Seigneur, de reconnaître sa main dans toutes nos circonstances, de reconnaître sa souveraineté, de reconnaître sa pédagogie, sa façon d'agir, ses moyens, tout ce qui, maintes fois, a déstabilisé son peuple, tout ce qui, maintes fois, a déstabilisé des disciples, tout ce qui, maintes fois, ne s'est pas passé dans nos vies, dans nos circonstances, dans nos églises, ne s'est pas passé comme nous espérions que. Eh bien non, ça ne s'est pas passé comme ça. Dans ma vie, dans mes circonstances, il y a tellement de choses où je pourrais dire nous espérions que... Et le problème, c'est que leurs yeux sont empêchés de reconnaître Jésus qui pourtant n'a jamais été aussi près de toi que maintenant. Jamais aussi près de toi que là, à cet instant. Comment Jésus peut-il être si près ? Et qu'il ne se passe pas plus de choses dans ton cœur. C'est simple. Tes yeux ont besoin d'être ouverts. Ouvre mes yeux, Seigneur, afin que je te voie. Ouvre mes yeux afin que je te comprenne. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître parce qu'ils étaient en train, ils marchaient comme vous, comme moi. Ils étaient en chemin, comme cet homme qui était sorti de la maison de la pêche et qui était sorti là en tenant Jésus. Il s'était laissé conduire par Jésus et il marchait, il avait commencé un cheminement de foi avec Jésus. Les disciples, eux aussi à leur niveau, ils étaient en train de marcher avec Jésus. Ils étaient même en train de lui parler. Et parfois on est là dans la prière chez nous ici, on prie, on parle au Seigneur, on lui parle. Mais on ne réalise pas. Leurs yeux, comme les nôtres, les yeux spirituels, c'est leurs yeux. Pourtant, ils voyaient très bien où ils mettaient les pieds physiquement. Mais c'est leurs yeux spirituels. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et Jésus pose cette question fondamentale parce qu'il sait pourquoi ils n'arrivent pas à le reconnaître. De quoi vous entretenez-vous pour que vous soyez tout triste ? Ils s'entretenaient par leurs paroles, Leur parole était en train de les plomber, pardonnez-moi l'expression. Leur parole était en train de les plomber. Ils s'entretenaient de tout ce qu'ils n'avaient pas compris, de tout ce qui ne s'était pas passé comme légitimement, pour eux légitimement, ça devait se passer comme ça ou comme ça. Ils s'entretenaient de leur incompréhension. Comme le serviteur dont on a parlé, leurs yeux étaient fixés sur des circonstances et non pas sur ce que le Seigneur révèle par son esprit dans la parole. Et il a fallu que Jésus, par la parole, par Moïse, par les écrits, leur enseigne et leur montre ce qui le concernait. Ils n'étaient pas en train de se nourrir et de s'entretenir de la personne de Dieu et de l'Écriture sainte, ils étaient en train de s'entretenir de ce qui n'allait pas. Vous savez, frères et sœurs, nous avons tous, dans nos parcours avec le Seigneur, dans nos parcours personnels, dans nos parcours de couple, dans nos parcours d'église, on a tous des raisons de s'entretenir. On a tous, à un moment ou à un autre, une façon de dire « on aurait aimé que ». Nous ne comprenons pas que. Comment est-il possible que? Comment ai-je pu être aveugle au point de? Comment se fait-il que? Et s'entretenir de nos incompréhensions. Pendant qu'on s'entretient de nos incompréhensions, on ne s'entretient pas de Jésus. Et en réalité, c'était un problème de regard. Leurs yeux étaient focalisés sur ce qu'ils ne comprenaient pas. Et pardonnez-moi, bien-aimé, mais il y a des moments, il faut juste lâcher. Je sais que c'est dur, mais il faut lâcher. Parce que si on se focalise, si on entretient ce que nous n'avons pas compris, on empêche la révélation de venir. Il faut couper avec ce que nous n'avons pas compris et accepter. Je sais, c'est super dur ce que je dis. C'est super dur. Que par moment de dire, Seigneur, ok, je ne comprends pas, mais ça fait partie de ma foi. Je l'accepte. Je t'ai fait confiance. Si tu me dis tout maintenant, c'est plus de la foi. J'accepte que des choses me soient révélées, expliquées plus tard. Peut-être demain, peut-être dans un an, peut-être des choses tu les comprendras dans 10 ans, quand tu auras suffisamment de maturité avec Dieu pour comprendre ce qui n'avait pas marché. Et il y a aussi certaines choses, bien aimées, si elles nous seront révélées ici-bas, il y a aussi des choses qui ne nous seront révélées que là-haut. Parce que ça fait partie de notre foi. Si le Seigneur me dit tout maintenant, c'est plus de la marche par la foi, c'est de la marche par la vue. Alors j'accepte. Et il a fallu que les disciples comprennent qu'ils étaient en train, malheureusement, d'entretenir un engrenage destructeur dans leur considération, dans leur regard humain et dans leurs paroles. Ils avaient besoin, et c'est ça qui faisait qu'ils étaient aveugles, alors que Jésus était si proche d'eux, bien voyant physiquement, mais aveugle spirituellement parlant. Le plan de Dieu leur avait totalement échappé. Et c'est bien souvent le cas des disciples que nous sommes. Dans le pire, parce que c'est vrai qu'ils ont été sérieusement secoués, c'est vrai qu'ils sont passés par le pire à ce moment-là. Ils n'arrivent pas à reconnaître la main de Dieu dans ces circonstances, alors qu'il y avait pourtant un plan divin. Alors ils en sont réduits à faire un simple constat des circonstances. Le serviteur d'Élisée en est réduit à faire un simple constat des circonstances. Notez bien très souvent que les disciples, dans leur réflexion, dans leur cursus de 3 ans et demi avec Jésus, sont très forts. Ce sont les champions de la constatation, toutes catégories confondues. Seigneur, il fait tard. Seigneur, la foule a faim. Le temps qui rentre, ça va faire tac, tac, tant, tant. Donc là, ça va faire trop tard, donc ce n'est pas possible. Donc Seigneur, il faudrait juste que tu arrêtes la réunion un peu plus tôt. S'il te plaît, Seigneur, renvoie-les chez eux parce que nous, on n'a pas assez, on n'a rien à manger. Et puis le jour est sur son déclin, etc., etc. Et on s'aperçoit que les disciples étaient très forts pour faire le constat des circonstances visibles. Mais ils avaient tellement de mal à comprendre au travers de ces circonstances où est-ce que le Seigneur voulait en venir et à quoi est-ce qu'il voulait les amener réellement. Ils ont eu besoin, comme moi, comme vous, ils ont besoin d'être éclairés par le Seigneur. Mais pour que cet éclairage divin puisse venir, j'insiste, bien-aimé, il faut se déconnecter de radio-circonstances. Il faut couper ça. On ne peut pas toujours s'entretenir en train de discuter des circonstances, de tout ce qui ne va pas. On ne peut pas non plus ressasser indéfiniment nos incompréhensions. On ne peut pas tomber dans une espèce de flagellation indéfinie. Si j'avais su, j'aurais peut-être pas dû. Et si j'avais, mais est-ce que j'aurais dû lui en dire plus? Mais non, chérie, tu lui avais déjà dit, tu voyais bien, il ne voulait pas t'écouter. Oui, mais mon cœur, tu comprends, j'aurais peut-être dû plus lui parler. Oui, mais t'étais déjà au conflit, c'était déjà tendu. Et si j'avais dit plus? Et si j'avais fait plus? Et si j'avais... Ma mère me disait toujours, avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Hein. Vous connaissez l'expression. C'est-à-dire qu'avec des si, vous pouvez tout supposer, vous allez refaire le monde. Mais ça ne sert à rien du tout. Donc le Seigneur me demande à un moment de me déconnecter, de me débrancher de radio-circonstances, pardon de le dire ainsi. De laisser la déception. Oui, nous espérions que... Et c'est comme ça que Jésus peut à nouveau, dans un moment d'intimité, il rompt le pain. Là, ils sont face à face avec lui. Là, ils ne sont plus en train de raconter tout ce qui ne va pas. Ils sont dans l'intimité. Le Seigneur rompt le pain. Et à ce moment-là, dans ce moment précis d'intimité, c'est là que le Seigneur, dans sa grâce, parce que c'est lui qui ouvre les yeux, on l'a dit, dans sa grâce, il leur ouvre les yeux. Quelle différence si vous lisez la suite du récit. Ils marchaient, ils étaient tout tristes, ils s'entretenaient. Et au moment où ils ont reconnu Jésus, où ils ont compris le plan pour eux, à ce moment-là, ils refont la route hein, en sens inverse, plein de courage, plein d'enthousiasme, plein de force. Ils remontent à Jérusalem, alors qu'à Jérusalem, beaucoup de difficultés peuvent les attendre encore. Rien ne sera simple, même avec l'effusion de l'esprit. On sait très bien que rien ne sera simple. Mais quand on a une bonne vision spirituelle des gens, de Dieu d'abord, de soi, des autres, de l'Église, des temps, des circonstances, etc. Quand on a une bonne vision spirituelle, merci Seigneur, tant que nos yeux ne sont pas ouverts, tant que nos yeux ne sont pas en bonne santé, je parle des yeux du cœur, des yeux spirituels bien sûr, tant que nos yeux ne sont pas en bonne santé spirituelle, tout est lourd, tout est pénible, rien n'a de sens. Mais à partir du moment où on a ce regard spirituel, à partir du moment où nos yeux spirituels sont ouverts, ils ont retrouvé, on peut trouver de l'élan, de la joie, de l'enthousiasme, du courage. Peut-être ce soir, tu es comme le serviteur d'Élisée. Ton adversité, ton épreuve te presse, elle t'oppresse comme un étau. Tu as besoin que Dieu ouvre tes yeux sur les réalités spirituelles, infiniment plus grandes et plus belles que ce que tes yeux humains voient en termes d'adversité, quelle que soit cette adversité. Tu es peut-être comme l'aveugle de Bethsaïda. Tu as saisi la main de Jésus. Tu as commencé à cheminer avec lui. Tu es sorti de ce monde de péché, de ténèbres. Tu as saisi ce filet d'amour que Jésus a lancé dans Bethsaïda, ce village de la pêche. Et puis tu as commencé à cheminer. Tu n'es plus aveugle. Il y a des choses que tu as saisies. Oui, mais peut-être plus aveugle, mais quand même myope. Seigneur, ouvre mes yeux. Touche-moi à nouveau. Je veux comprendre, je veux voir. Et peut-être, comme les disciples, c'est peut-être... pas au niveau des... Tu n'as peut-être pas besoin de voir des circonstances comme Jésus les voit. Tu n'as peut-être pas besoin de voir les autres comme Jésus les voit. Tu n'as peut-être pas besoin de voir ta famille comme Jésus la voit. Peut-être que ça s'est calé. Mais peut-être comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, tu as peut-être tout simplement besoin d'une nouvelle révélation de Jésus. Et qu'il y ait de la tristesse de ton cœur qui s'en aille. Les incompréhensions, la déception, tout ça. Juste Jésus et toi à table dans la communion et que tes yeux spirituels s'ouvrent sur lui, que tu en aies une révélation et comme eux, que ça booste, que ça dynamise ta vie spirituelle et puis qu'ensuite, plein de courage et d'enthousiasme, tu ailles, tu retournes être vainqueur à Jérusalem, là où tout s'était mal passé. Et ils ne sont pas partis ailleurs, non. Ils sont retournés justement où ça s'était mal passé. Et ils ont été vainqueurs là où ça s'était mal passé. Parce que c'est ça la vraie victoire. Amen. Alors voilà quelques cas de figure, ce serait déclinable dans des tas de situations, mais des quelques cas de figure dans lesquels les uns et les autres nous pouvons dire « Ouvre ses yeux, Seigneur. » Ou peut-être très honnêtement, « Ouvre mes yeux, Seigneur. » Amen. On prie. Merci, Seigneur.